Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Sophie au micro, une maman française installée en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans, mais au Moyen-Orient depuis plus de 15 ans. Elle nous raconte la rencontre avec son mari, suivie de leur première expatriation en famille à Dubaï, et enfin celle en Arabie Saoudite. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Sophie.
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Avec plaisir.
Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors, je m'appelle Sophie, j'habite en Arabie Saoudite depuis une dizaine d'années. Je suis mariée à Jean-François, mon mari, qui est pilote de ligne. Et j'ai un garçon qui s'appelle Charles-Éloi et qui a 15 ans maintenant. Voilà, qui a passé la plupart de sa vie au Moyen-Orient.
C'est fou. Et alors, attends, donc du coup, j'ai une rapide question pour toi de culture générale que j'ai essayé de chercher sur Google et que manifestement, j'ai mal trouvé. Est-ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite le Proche-Orient ou le Moyen-Orient ?
Non, c'est le Moyen-Orient.
Est-ce que tu sais ?
Ça fait partie du Moyen-Orient.
Mm. Ok, c'est juste, voilà, histoire qu'on dorme moins bête grâce à toi. J'aimerais bien en fait qu'on se fasse une petite rétro française, à savoir par exemple où est-ce que tu as rencontré Jean-François.
Alors moi j'ai rencontré Jean-François à Toulouse lorsque nous étions en fac. Moi je faisais une fac de langue et lui faisait une fac de droit. Et puis en fait des amis communs, voilà, nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et ouais. Je ne savais pas qu'il voulait être pilote et il ne savait pas que je voulais être hôtesse aussi.
Mais oui, parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit « Ah, mais ils se sont nécessairement rencontrés dans un avion, ces deux-là, mais pas du tout. »
Ben non, absolument pas. Non, on s'était rencontrés à l'âge de 19 ans, donc voilà, on n'a pas du tout.
Ok, mais vous aviez donc du coup, j'imagine, une passion pour au moins les voyages. J'imagine que du coup, vous avez fait pas mal de pays avant d'étendre la famille, c'est ça ?
Alors, on a vécu, enfin, mon mari, lui, est né à l'étranger et quand nous nous sommes mariés, nous avons vécu 5 ans au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest.
D'accord, voilà. Atypique.
Atypique, voilà. Et bon, voilà, ses parents habitaient déjà là-bas et voilà, non, c'était, c'était une belle expérience. Ouais. C'était ma première expérience d'expatriation et j'avoue que, voilà, je suis contente et je suis heureuse d'avoir vécu au Burkina parce que les Burkinabés sont des gens vraiment très, 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 très gentils.
Ok. Et alors, à quel moment vous décidez potentiellement d'étendre la famille ?
Ah, ben, on a commencé et après, bon, les aléas de la vie ont fait que, voilà, on est parti en Arabie, directement du Burkina. Mon mari a une proposition à Riyad. Déjà une première proposition, un premier départ pour l'Arabie Saoudite. Et quand il m'a demandé, il m'a dit, mais ça ne te dérange pas d'aller vivre dans un pays, tu vas porter la baya qui est la robe noire, tu vas voir le voile. Je dis, oh non, mais ça ne me dérange pas dans la mesure où, voilà, je découvre autre chose. Et voilà, j'étais heureuse de découvrir autre chose, de voir autre chose. Voilà.
Bon, on va en revenir après sur, voilà, sur les aspects culturels qui embrassent l'Arabie Saoudite. Donc, du coup, tu as Charles-Éloi en France ou
je suis tombée enceinte en Arabie Saoudite. Et ensuite, nous sommes rentrés en France pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai eu Charles-Éloi en France. Il a vécu ses deux premières années en France. Et ensuite, nous sommes partis aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï.
D'accord. Alors, comment toi, tu appréhendes le départ à Dubaï ?
Oh, moi, j'étais très contente. Ouais. Parce que je connaissais déjà Dubaï, car lorsque nous étions à Riyad, j'allais souvent avec mes amis, nous allions passer des week-ends voilà, pour sortir un petit peu d'Arabie à ce moment-là. On avait passé des week-ends à Dubaï, donc je connaissais déjà Dubaï et j'avais déjà des copains à Dubaï. Et donc, j'ai vu la construction, le départ de la construction du Palm Island. Donc cette forme de palmier qui est dans la mer et qui accueille maintenant beaucoup d'hôtels 5 étoiles et de villes là aussi.
Voilà. Ouais, parce que attends, quand vous partez à Dubaï, c'était en quelle année ? Du coup, c'était il y a 15 ans.
Alors, moi, on est arrivé à Dubaï en 2008, mais moi, j'avais connu Dubaï en 2002.
Ah oui,
en 2001, 2002. Donc vraiment, c'était encore...
En chantier.
Une autre ville, c'était ça commençait à être bien en chantier. C'était pas du tout autant développé que maintenant. C'était pas, mais ça commençait effectivement.
Ouais. Et comment vous trouvez un logement là-bas? C'est par le biais, pareil, du contrat de Jean-François?
Oui, tout à fait, tout à fait. On n'a pas eu trop le choix. Donc, on avait été un petit peu déçus au départ parce qu'on nous avait montré des villas dans lesquelles nous allions éventuellement habiter. Et à l'arrivée, on dit non, il n'y a plus de villa, donc vous allez habiter là. Donc, on est resté 6 mois dans un appartement hôtel. Ensuite, on nous a dit, ben non, finalement, comme il n'y a plus de logement, vous prenez l'allowance et vous allez choisir une villa pour vous. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous habitions aux Springs, voilà. Ce qui était bien parce que l'école de Charleroi, en fait, était aussi dans le complexe. Donc, je pouvais l'amener à vélo et c'était sympa.
Ah, très bien.
Ouais. Ensuite, un an plus tard, on nous a demandé de rechanger pour réintégrer les logements de la compagnie.
Et sympa.
Voilà, c'était moins sympa parce qu'on s'est retrouvés loin et j'étais à peu près à 35 km de l'école. Parce que bon, il faut savoir.
Ah oui, donc c'est plus trop en vélo. Ou alors il faut avoir la forme.
Voilà, c'est plus trop en vélo. Et puis c'était, voilà, parce que il faut savoir que Dubaï s'étend sur le littoral. Et donc, voilà, toutes les distances sont très longues. Et de toute façon, on fait tout en voiture. Et donc, voilà, je conduisais beaucoup. Je faisais à peu près 170 km par jour, donc je ne rêvais pas à Dubaï comme ça. Voilà, c'est ce qui a un peu posé un peu dans la balance lorsque nous avons décidé de partir.
Et vous ne pouviez pas juste changer Charleroi d'école? Non, parce que c'était une
école,
française.
Non, absolument pas. C'était une école anglaise, c'était un système international anglais.
D'accord.
Mais surtout à cette époque-là, les écoles étaient pleines, les écoles étaient en liste d'attente parce qu'il était en liste d'attente sur 2 autres écoles qui étaient plus proches de la maison. Et ouais. Puis voilà, on n'a pas eu... D'ailleurs, j'ai eu une réponse une fois d'une école, mais c'était 3 ans après que nous ayons quitté Dubaï. Donc non, voilà, c'était pas du tout... Je n'avais pas trop le choix à ce moment-là. À moins, bien sûr, de le mettre dans une école très
chère. Et vous
restez
combien de temps?
Donc on est resté 2 ans et demi. Voilà, on est resté 2 ans et demi.
Ah, quand même. Ouais. Voilà. Et alors, c'est quoi alors la vie à Dubaï? Parce qu'on la voit à travers tous ces gens qui s'expatrient là-bas, parce que manifestement, ça a l'air d'être un paradis fiscal pour eux. Mais,
Oui, je pense qu'il y a un paradis quelque part, ça c'est clair. Après, voilà, moi, Dubaï, c'est sympa, mais je pense qu'il faut vraiment habiter dans les beaux endroits, avoir les bonnes connaissances, les bons amis. Et après, c'est très superficiel. Hein. C'est très.
Ah, ça fait très Las Vegas, non?
Ah, mais complètement. C'est une ville américaine construite entre la mer et le désert. Enfin, voilà, c'est très beau. Hein. Tout est beau, tout est fait pour le tourisme, tout a été fait pour le tourisme. Et tout ce qui est montré, en fait, brille. Voilà.
Oui.
Mais tout est très cher, tout est devenu très très cher. Et je sais qu'avant il y avait le shopping festival qui était hyper intéressant, qui était vraiment très intéressant. Et maintenant ça ne vaut absolument plus le coup. C'est plus du tout quand les prix ont monté. Enfin, le niveau de vie a énormément augmenté.
A explosé, ouais.
Ouais.
Bah, je comprends pas l'intérêt d'aller t'enfermer à Dubaï si c'est pour rester dans ton hôtel ou aller rester dans des hôtels. C'est ça le.
Ah mais Dubaï c'est très bien en vacances. Voilà, quand on veut prendre une semaine, 10 jours de vacances, oui, ben voilà, c'est très bien, c'est très. Après, je pense qu'il faut travailler quand on est sur place. Il faut avoir une occupation et parce que bon, voilà, la vie est très chère, donc il faut vraiment avoir de salaire, hein, à moins d'avoir, voilà.
Ouais.
Voilà, beaucoup de moyens.
Pendant ces 2 ans à Dubaï, comment toi tu t'occupes? Parce que justement, tu nous parlais de salaire. Est-ce que
Ah non, moi je travaille pas. Non, je ne travaillais pas. J'étais déjà assez occupée à aller chercher mon fils, l'amener, aller le chercher, et puis après m'occuper de lui parce qu'il était petit, j'avais pas de maid, en fait, de bonne, et j'en avais une qui venait faire le ménage, une dame qui venait faire le ménage 2 fois par semaine, voilà, ça me suffisait.
Mais je croyais que les services à la personne étaient quand même assez bon marché là-bas, non?
Oui, ils sont très bon marché, mais dans la mesure où il faut après sponsoriser, voilà, les coûts après devenaient plus importants. Et puis, je ne me voyais pas vivre avec une personne 24 heures sur 24 avec moi. Et puis, de toute façon, la chambre dans laquelle, les chambres de bonne, comme ils les appellent dans les maisons, personnellement, je ne me voyais pas mettre quelqu'un dedans parce que c'était tellement petit que. Donc,
c'est vrai.
Me voyais pas, ah oui, non, là, franchement. Non, je ne me voyais pas. Et puis bon, je n'avais pas besoin. De toute façon, je m'occupais de mon fils. Et puis voilà.
D'accord. Et alors, il a quel âge, Charleroi, quand vous décidez de partir en Arabie Saoudite?
Il a 5 ans.
5 ans, ok, donc il est prêt à partir à l'école, c'est ça?
Ah, bah ouais, il avait déjà été à l'école
Une
à
année?
Dubaï. Il avait fait nursery et puis après, il avait fait une année à Dubaï.
Est-ce qu'il a appris l'arabe ou est-ce que donc du coup français-anglais était suffisant pour lui
Bah, il
et
a
pour
appris
vous
déjà
d'ailleurs?
l'anglais parce que quand on est arrivé, on l'a mis dans une petite nursery, enfin une petite école anglaise. Ensuite,
Oui.
il a bougé dans une école internationale, donc c'était toujours anglais et ils apprenaient l'arabe de toute façon au départ. Oui,
D'accord.
ils apprenaient l'arabe.
Est-ce que l'arabe de Dubaï est le même que l'arabe d'Arabie Saoudite ou c'est un dialecte différent?
Je pense qu'ils ont chacun leur dialecte, mais qui se rapprochent énormément. Et qui est en
Ouais, donc
revanche
ils se comprennent.
un peu différent de l'arabe du Maghreb.
D'accord. Ok.
Voilà. Et puis de toute façon, ce que les enfants apprennent à l'école, c'est l'arabe littéraire, donc c'est pas forcément hyper utile dans
Ils
la vie de tous les
communiquent
jours.
entre eux en
Voilà.
arabe, c'est ça, ils communiquent entre eux en anglais à la limite, c'est ça?
Oui, enfin oui, voilà. Après, j'avoue qu'on aurait peut-être plus besoin de l'arabe en Arabie qu'à Dubaï. À Dubaï, il faut
Ok.
être l'anglais et de mise, quoi. Enfin, on parle tous anglais.
Comment t'appréhendes de repartir du coup en Arabie Saoudite étant donné voilà
Ah, moi
tous les aspects négatifs qu'on entend sur ce pays? Par exemple, ta famille, étant donné que tu ramènes un petit garçon maintenant dans ce pays, qu'est-ce qu'ils en pensaient?
Oh bah, non, ils étaient contents dans la mesure où ils savaient, enfin, moi, on connaissait l'Arabie Saoudite et on l'a connue dans des années qui étaient assez strictes, assez
Oui.
fermées. Je savais déjà qu'à Jeddah, c'était beaucoup plus libre qu'à Riyad, que c'était un peu plus ouvert, on va dire, que la police religieuse était beaucoup moins présente. Et que, ben, au fil des ans, de toute façon, la police religieuse a perdu un petit peu de son pouvoir. Et voilà, donc l'arrivée à Jeddah, pour moi, était sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé.
Oui.
Après, le campement dans lequel on habitait au départ, enfin, on habite toujours d'ailleurs, mais qui a bien évolué. Voilà, au début, on se disait, oulala, ça va être un petit peu chaud. Et puis
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y
après,
avait?
bon. Ah ben non, parce que c'était pas du tout un campement européen. Après, bon, qu'il y avait pas les mêmes standards, on va dire.
OK.
Après, c'est le seul campement qui a un parc immense. Notre villa a deux jardins, alors que trouver des jardins dans les campements en Arabie Saoudite, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même compliqué.
OK.
Et mais voilà, mais maintenant, ça va, on est très bien, notre maison est très bien, et puis voilà, on est habitués. Et puis, de toute façon, on n'est que trois, donc.
À quoi ça ressemble la vie alors du coup là-bas? Est-ce que tu es barricadé entre quatre murs avec des employés de maison? Comment ça se passe?
Ah non, non, non. Alors, dans le campement, c'est un peu comme la vie, une vie un peu normale, entre guillemets, dans la mesure où on peut se balader sans porter l'abaya, sans. Voilà, on peut se promener en short, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses. Enfin, ça, c'était au départ, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas conduire, on ne pouvait pas faire du vélo à l'extérieur. Ça aussi, voilà,
Ah
c'est
bon?
des choses qui ont évolué depuis les 2 dernières années. On ne peut on ne, les femmes ne sont autorisées à conduire que depuis 1 an et demi.
Mais c'est pour ça que tu dis moi ça me dérange pas d'aller vivre là-bas, mais de me dire d'être 100% voilée et de pas pouvoir avoir la
Alors,
liberté au moins de conduire, ça me paraît démesuré, quoi.
je tiens à dire que même à Riyad, j'ai toujours été un petit peu rebelle. J'ai jamais voulu porter le voile, ce qui m'a valu parfois quelques regards très méchants de la
Ouais,
police religieuse. Voilà, où de
ouais.
toute façon, il demandait à mon mari, à ce que je me couvre, à me demander, voilà, il lui demandait de me dire que je me couvre. Mais à Jeddah, je n'ai jamais porté le voile. Et puis depuis 2 ans. L'abaya n'est plus obligatoire. À partir du moment où on porte des vêtements qui nous couvrent et puis
Oui.
qui sont voilà respectueux,
Oui, c'est ça, c'est
on
ce
n'est
que
pas
j'allais
obligé.
dire. C'est-à-dire que tu es un peu dans un pays musulman, la moindre des choses, c'est quand même de respecter leur religion, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Ce que certaines personnes, enfin, ce que beaucoup de gens ou beaucoup de touristes ont tendance à oublier aussi à Dubaï, entre
Oui,
parenthèses.
c'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Alors qu'ici, oui, voilà, on est obligé de respecter les règles. Et puis bon, ben voilà, c'est aussi respectueux envers le pays qui nous accueille. Et
Oui.
moi, j'avoue que je porte plus trop l'abaya dans la mesure où j'ai un pantalon, une liquette, et puis ça suffit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jeddah a toujours été plus ouverte, parce que Jeddah a été le premier port ouvert en Moyen-Orient. Donc, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu plus de... Il y a eu une culture, il y a toujours eu plus de... Comment dire, d'acceptation, oui, d'ouverture, de l'autre, d'ouverture. Voilà. Oui. Okay. Et puis, tout va bien. Et de toute façon, lorsque les femmes ont commencé à travailler dans les années... Je me souviens pas, parce qu'on était à Riyad quand ça a commencé à travailler. Donc, ça devait être en 2003-2004. La ville qui a commencé à embaucher des femmes, c'était Jeddah. C'est pas Riyad. D'accord. Riyad est plus conservateur, on va dire. Alors que Jeddah, voilà, c'est un peu plus pour les expériences. Mais j'avoue que moi, j'étais très contente. Je suis très contente de vivre à Jeddah.
Mais alors, j'ai une question. Si tu avais eu une fille plutôt qu'un garçon, est-ce que ça aurait changé la donne ?
Non,
absolument pas. Parce que je veux dire, étant donné... Parce que tu as l'impression qu'ils ont quand même beaucoup d'aminosité envers les femmes dans ce pays.
Non. Non, pas du tout. Pas forcément. Et puis, alors, certainement pas à Jeddah. Non, il n'y a pas du tout. On ne le ressent absolument plus. Peut-être que j'ai peut-être pu le ressentir dans les années 2001, 2002, parce que jusqu'à 2004, ça a été des années qui étaient assez compliquées parce qu'il y avait beaucoup d'attentats. Voilà, on était vraiment dans ces années assez difficiles, mais où parfois on pouvait rencontrer des regards un peu agressifs et des regards qui ne nous supportaient pas, en fait, en tant qu'expatriés ou en tant que blancs. En fait, après, ici, je n'ai absolument pas ressenti. C'est vraiment très ouvert. Enfin, c'est complètement différent. Et puis, au contraire, là, il y a les jeunes femmes. On voit que les jeunes femmes ont envie de bouger, que la jeunesse, parce que l'Arabie est un pays quand même qui est très jeune, et que les jeunes ont, avec l'accès aux réseaux sociaux, voyez ce qui se passait dans le monde et voulaient avoir avaient soif de cette liberté qu'ils ont un peu, qu'ils ont eu. Depuis 3-4 ans, on va dire maintenant, depuis 3-4 ans, mais bon, toujours un peu contrôlé, bien sûr. Mais voilà, maintenant on a des concerts, chose qu'il n'y avait pas, on a de la musique, on a des événements, mais qui sont mixtes. Ça, c'est incroyable. Voilà, enfin, ma vie était complètement différente lorsque j'étais à Riyad de la ville qui est maintenant. Puis bon, maintenant, comme je conduis, c'est encore plus différent. Parce qu'avant, j'étais quand même relativement dépendante d'un chauffeur. Parfois c'était un peu pénible.
Oui, alors donc du coup, attends, quand tu vas à la plage, il faut que tu mettes comment tu t'habilles, j'imagine.
Alors, moi je vais pas dans les plages. Alors, je vais pas dans les plages publiques, je vais dans une plage privée. Il y a plusieurs plages privées et qui sont très sympas et qui sont complètement différentes. Après, moi, Charles-Éloi et Jean-François font de la plongée sous-marine, donc on va dans une
m'étonne, ils sont contents là.
Ah, bah oui, complètement.
C'est vrai que j'y pensais pas, mais oui, vous êtes du côté de la mer Rouge.
On est du côté de la mer Rouge qui renferme mais des coraux les plus beaux du monde. Enfin, c'est incroyable.
Ah oui.
J'avoue que j'ai pu plonger à Nouméa, dans les Bahamas, dans plusieurs parties du monde. Et j'avoue que les coraux, j'ai jamais vu d'aussi beaux coraux qu'ici. Et moi, je ne reste qu'en snorkeling. Voilà, je reste avec le masque
tuba.
Ah oui,
en plus. Hein. Non, voilà. Pour avoir fait, moi, de la plongée en Égypte.
Voilà, c'est la même chose, voilà, c'est pareil. Hein.
Ouais, c'est une grosse recommandation. Et c'est vrai qu'après, quand on te propose la Méditerranée, tu te dis, bon, on n'est quand même pas sur un autre... on est sur un autre level, quoi.
Absolument. C'est complètement différent. Ouais. Mais c'est beau, j'avoue que voilà, l'Arabie est un pays mais fabuleux. Et on voit d'ailleurs le travail qui est fait par la Commission royale pour le développement du tourisme et de la culture. On peut pas empêcher ça non plus, parce que c'est pour le développement, c'est pour trouver du travail aussi pour les gens qui vivent sur place, et voilà, développer des régions, la région nord, et puisque veut faire le prince avec Neom, le développement de cette région qui est absolument superbe. Personnellement, toute l'Arabie est belle de toute façon, que ce soit dans le sud avec le Empty Quarter qui est le Rub al Khali, qui n'est que du désert avec des dunes immenses, ou après quand on va sur la Syre à Abha, et qui a le sommet le plus grand d'Arabie, Mount Sauda. Oui. Et là, les températures, et puis c'est un décor de montagne. Après, plus on monte, on a tellement de choses à faire. Moi, je sais que j'avais suivi la voie ferrée, qui est celle que Lawrence d'Arabie avait attaquée quand il y avait eu. On a suivi cette voie ferrée, passe par Médine, qui remonte sur Alula, qui va dans le désert, et puis tous ces paysages qui sont mais splendides, mais c'est vraiment incroyable. C'est à partir de Jeddah, quand on va vers le nord, tous les 100 kilomètres, le paysage change.
Mais alors, parce que c'est fou, parce que tu me disais que vous alliez faire du camping le week-end. Oui. Et moi, la façon dont je visualise ce pays, c'est des étendues de sable.
Ah non, non, alors l'étendue de sable, elle n'est que dans le sud, dans le Rub al Khali. Voilà, là, c'est que dans le sud, sud-est, et puis jusqu'à Riyad, parce que même à Riyad, il y a beaucoup plus de désert que Jeddah. Jeddah, nous, c'est plutôt les montagnes. Alors, on a du désert, d'accord, on a bien sûr du sable, mais avec la montagne. Et si on veut du sable, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut descendre plus et aller plus loin. Nous, c'est plutôt c'est de la région du Hejaz et qui est assez montagneuse.
Avec voilà. T'as raison, je suis sur Google Maps, là. Je regarde les frontières entre le Oman et le Yémen. Il n'y a pas de route.
Ah, mais non, là, c'est très, très... Voilà, Abha, Najran, dans le sud, là, c'est magnifique. Là, c'est une culture qui est extraordinaire.
Et alors, attends, donc toi, donc j'imagine maintenant, ça fait quand même 10 ans que vous habitez là-bas. Comment tu t'es faite à la vie? Est-ce que donc tu as trouvé un travail? Est-ce que
Oui, j'ai d'abord travaillé à l'Alliance française en tant que professeur de français et langue étrangère. Et ça m'a apporté une bonne expérience. C'était sympa parce que je travaillais avec des femmes saoudiennes de tout milieu. Et c'était vraiment, vraiment sympa parce que quand je leur disais, madame, quand elle me demandait, madame, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Moi, je suis allée camper, je suis allée faire ci, je suis allée faire ça. Elle me disait, madame, vous connaissez mieux le pays que nous. J'ai dit, oui, mais c'est dommage parce que vous avez quand même un beau pays, donc vous devriez connaître votre pays.
Oui, oui, donc vous restez quand même très centré sur la communauté française dans ce pays ou,
non,
pas du tout.
Plus trop. J'avais des amis belges, des amis français. Mais bon, qui au fil des ans sont partis, et j'avoue que voilà, j'ai quelques amies françaises, mais je vais pas forcément rechercher plus maintenant. J'ai des amis anglais, italiens, voilà, libanais, et voilà. Et puis bon, je travaille, donc j'ai pas forcément aussi le temps de faire énormément de choses. Maintenant, je travaille à l'école anglaise en tant que professeur de français.
Ok. Ouais. Et Charles-Éloi, alors donc du coup, il est dans quelle école? Il est dans une école internationale.
Charles-Éloi a commencé à Jeddah dans l'école française pendant 3 ans. Et puis après, on voyait qu'il n'était pas très bien. Donc, on a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, tu repars dans un système anglais. Et ce qu'il a fait, donc il a passé ses tests. Et après, il est parti, il a intégré l'école britannique, enfin, l'internationale britannique de Jeddah.
C'est marrant. Je me permets de t'arrêter, mais pourquoi tu sens qu'il n'était pas bien, parce que tu te dis, bon, bah, maintenant qu'il est un peu entouré de Français, ça doit aller un peu mieux, non?
Alors, voilà, il y avait une chose qui le chagrinait un petit peu, c'est que ces trois copains, il n'y a pas beaucoup de Français. Hein. Français, il n'y en a pas beaucoup dans les écoles internationales françaises, surtout à Jeddah. Et donc, ces trois copains sont partis la même année. Donc, il s'est retrouvé un peu tout seul et fait les petits enfants qui restaient, qui étaient dans sa classe ou quoi. Après, pendant la récréation, parlaient arabe. Et voilà, donc il se retrouvait tout seul, il n'était pas bien, enfin voilà, il n'était pas... Donc voilà, au bout d'un moment, il faut savoir changer, et puis il faut faire les choses. Et de toute façon, il avait envie de repartir, je pense, dans le système international anglais, et qui lui a bien convenu, et voilà, donc il a passé 6 ans dans le lycée international de Jeddah, de Britannique, voilà. Et maintenant, il est en Angleterre, en boarding school.
Ah oui? Donc il a quitté l'Arabie Saoudite, là, il est en Angleterre?
Voilà, alors là, pour l'instant, il est avec moi, puisque vu ce qui se passe en Angleterre, confinement oblige. Et donc, il a passé il est parti en Angleterre fin septembre, parce que nous, on a été bloqués dans le pays. Il faut savoir qu'à partir du mois de février, les vols internationaux ont été bloqués. Donc, on ne pouvait pas sortir d'Arabie Saoudite et les vols n'ont réouvert que fin septembre. Et donc, là, il a pu, à part quelques vols, bien sûr, de rapatriation. C'est tout. Et il a pu partir que le 27, donc il avait commencé ses cours en ligne. Et après, il a rejoint son internat et est rentré à Noël. Heureusement, avant que les vols ne referment, avant que les frontières ne se referment ici. Et là, maintenant, voilà, après, on a reçu, vu l'état de crise en Angleterre, le headmaster nous avait demandé à ce qu'on garde des enfants plutôt que de les envoyer. Et ils seraient de toute façon en virtual learning.
Ok. Mais alors, attends, comment tu le vivais, toi, avant Covid, hein, bien entendu, mais de laisser ton petit garçon de de 14-15 ans partir. Attends, parce que quand même, l'Arabie Saoudite de l'Angleterre, ça fait combien en avion? Ça fait une trotte quand même, non?
Si, ça fait à peu près 5 heures, 6 heures de vol.
Ouais. Mmh. T'as, voilà, t'appréhendais pas de laisser ton petit...
Non, enfin, j'avoue que non. J'avoue que non, parce que je savais qu'il allait avoir plus de copains, tout ça. Nous, il faut savoir qu'en Arabie, depuis le mois de mars, on est en éducation en ligne aussi. Et,
oui, nous aussi.
Voilà, et l'éducation en ligne, au bout d'un moment, c'est terrible. Et puis, tous ses copains sont partis, pareil. Tous ses copains sont partis. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu veux voilà, essayer, faire une autre expérience, voir autre chose. Et puis, voilà, il a dit oui. C'était un moment, voilà, une occasion, une opportunité. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile pour nous de le voir partir.
Oui.
Mais
oui, bah
moi, je suis contente. Voilà, je suis tellement heureuse aussi qu'il ait pu refaire une rentrée présentielle aussi. Enfin, pas une rentrée, mais qu'il ait pu être en présentiel. Et se faire des copains, faire des activités, chose qu'il ne faisait plus ici. Donc, moi, de le voir passer son temps devant l'ordinateur, moi, au bout d'un moment, ça me stressait un petit peu, j'avoue.
Non, c'est clair.
Et que il prend trop d'habitude par la suite. Donc là, maintenant, bon, là, il est avec moi jusqu'au 21 février. Et puis après, on verra comment la situation évolue en Angleterre.
Hein. Oui, non, c'est sûr. Et Charles Eloi, du coup, il parle les trois langues. Pardon, il parle français, anglais et arabe. Ou
ah,
juste
non, à mon plus grand désespoir, il ne parle pas arabe malgré ses 8 ans d'arabe.
C'est vrai?
C'est fou, oui. Je ne sais pas comment se passe l'enseignement, mais voilà, je ne vais pas trop critiquer, mais à mon avis, ils ont un problème au niveau de l'enseignement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamins, enfin, surtout des trucs, qui ressortent au bout du temps et qui parlent très peu arabe. En revanche, il sait lire et écrire. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il peut déchiffrer, il peut parler, mais quand je lui demande, bon, ben, est-ce que tu peux lui demander ça? Il me dit, je ne sais pas.
C'est vrai, c'est marrant.
Voilà. Ah, ouais.
Donc, j'imagine que si tu veux aller faire tes courses ou quelque chose comme ça, enfin, l'anglais est suffisant. Je veux dire, tout le monde parle anglais là-bas.
Oui, oui, l'anglais est suffisant. Après, j'ai quelques petites notions d'arabe. Hein, donc, j'essaie aussi d'utiliser le peu d'arabe que je connais. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu commencer à apprendre l'arabe, après, j'ai commencé à travailler. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, ben, je peux plus continuer. Mais je sais écrire et je sais aussi un peu déchiffrer. Donc...
Oui, parce que j'imagine le GPS, parfois, quand il se perd dans le désert, t'as quand même intérêt à savoir déchiffrer le panneau, quoi.
Ah, bah, de toute façon, oui, là, c'est même pas Oui, les panneaux sont écrits en arabe. Une fois qu'on sort des grandes villes, tout est écrit en arabe.
Oui, c'est ça. Donc t'as intérêt quand même à avoir quelques notions, quand même.
Oui, voilà. Exactement. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue, j'ai honte. Hein. Mea culpa, ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans que je suis en Middle East. Et je ne parle toujours pas arabe, donc ça, vraiment, c'est une honte pour moi.
Mais en même temps, est-ce que vous êtes vraiment tant affilié à la... Je veux dire, aux gens en local? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous restez quand même dans une communauté européenne ou...
Non, après, les Saoudiens locaux qu'on côtoie sont des personnes qui ont étudié à l'étranger, sont des personnes qui sont très ouvertes et qui ont un certain niveau. Enfin, voilà, c'est pas local. Moi, les seules femmes locales que j'ai...
Lambda, quoi.
Voilà, exactement. Les seules personnes... c'est à l'Alliance française où j'ai pu côtoyer pas mal de femmes, mais de différents milieux, que ce soit médecin ou juste simplement étudiante ou d'une famille plus pauvre, quoi. Enfin, donc... franchement, c'était très intéressant. C'était ça qui était plus intéressant. Ouais. Après, de là, à faire partie de leur vie, c'était très difficile aussi de rentrer comme ça dans leur... parce qu'ils ont quand même leur culture, ils ont quand même la séparation entre les femmes et les hommes. C'est pas facile. Voilà. Il y a toujours cet aspect
de
la religion aussi.
Oui, tu arrivais à trouver un travail en étant une femme là-bas facilement?
Oui, mais c'est un travail d'éducation.
Oui.
Et c'est dans des instances internationales. C'est pas dans...
Oui, c'est pas en local. Local. Tu vas pas aller travailler dans le supermarché à côté, quoi.
Non, absolument pas. ça va pas être possible. Mais j'avoue que là, c'est incroyable. J'avoue que c'est incroyable de voir autant de femmes, de jeunes femmes saoudiennes travailler. C'est hallucinant. Partout. Parce qu'ils sont déjà... maintenant, les boîtes sont obligées ou les magasins sont obligés d'embaucher des femmes. Mais et puis elles ont envie de montrer aux hommes qu'elles sont capables et qu'elles veulent leur indépendance. C'est incroyable ce changement dans la société. Et elles sont très, très bien. Franchement, parfois, elles sont même mieux que certains hommes. Hein. Elles travaillent beaucoup mieux.
Mais c'est
mieux.
Pour ça qu'ils ne voulaient pas les ramener, hein, qu'on se dise.
Je ne sais pas. Au départ, bon, après, c'était une culture assez macho aussi. Mais bon, comme nous avant. Hein.
Bien sûr.
Comme en France, il ne faut pas oublier. Hein. Le droit de vote, bon, on l'a eu tard. Hein. Mais voilà, je sais que ça a une mauvaise presse, alors que finalement, on vit très bien. Et voilà, il ne faut peut-être pas s'arrêter.
Parce que malheureusement, il y a quand même... Il y a toujours cette connotation très négative associée à l'islam qui est
bien malheureuse. J'avoue que le prince, le crown prince, a vraiment un esprit d'ouverture. Il ne faut pas oublier que là, ils ont fait d'ouverture avec Israël, entre les Émirats et l'Arabie. Enfin, c'est incroyable. Et maintenant, à Dubaï, on voit beaucoup d'Israéliens, alors qu'avant on n'en pouvait pas. Avant on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas aller dans ces pays comme ça. Oui. Enfin, c'est incroyable. Il y a eu cette ouverture, et puis il y a eu des messages du prince comme quoi non, la tolérance religieuse. Enfin, voilà, ils essaient de faire changer les mentalités aussi. Ils essaient de faire bouger. Voilà. Après, ça viendra par l'éducation, ça viendra. Mais c'est un chantier qui est tellement énorme, et un chantier même au niveau de l'environnement, de tout. Enfin, il y a tellement de choses à faire que ça prendra du temps.
Oui, mais bon. Non, mais alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expatriation au Moyen-Orient ?
Moi, j'avoue qu'en Arabie Saoudite, j'ai eu une expatriation très riche, parce que j'ai eu des expériences très, très riches. Je ne pourrais pas en parler là, parce que bon, c'est assez, je ne pense pas que... Enfin, j'ai simplement pu travailler pour la femme d'un prince, et j'ai pu assister à certaines choses qui m'ont un peu étonnée et qui m'ont fait repartir dans les années de François Ier, on va dire.
Waouh.
Voilà. J'ai appris énormément de choses. J'ai découvert beaucoup de choses culturellement. Puis bon, c'est vrai qu'à Jeddah, c'est beau aussi, parce qu'il y a des maisons, dans le vieux Jeddah, il y a toutes les maisons avec les moucharabiers. Enfin, mon expérience a été relativement positive. Et j'avoue que... je pensais pas, ça fait quand même plus d'un an là maintenant que je ne suis pas sortie d'Arabie Saoudite, et je ne pensais pas que ça ne me pèserait pas. Parce qu'avant, je me disais, il faut sortir, on va partir en vacances. Et puis, bien non. Non, finalement, je me sens bien et j'ai pas trop envie de. Voilà, j'attends pas après une vacance. Quoi, on a fait tellement de choses, on a fait tellement de découvertes dans l'Arabie, parce qu'il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Français ou beaucoup d'expats qui ne sortent pas de Jeddah, ou qui ne sortent pas de Riyad et qui font rien, quoi. Et ça, je trouve ça tellement bien. Après, c'est pour des mesures de sécurité. C'est pour des mesures de sécurité aussi. Dernièrement, on a eu des petits soucis. On nous demande de faire attention. Après, nous, on essaie de sortir avec des personnes qui sont là depuis très, très longtemps, qui parlent arabe et qui sont au courant un peu de tout. Mais moi, je suis heureuse d'avoir découvert l'Arabie, d'avoir découvert ce pays et d'avoir visité ce pays. Maintenant, je pense que j'en ai découvert à peu près 80%. Oui. Et je suis heureuse de si un jour je pars d'Arabie, de l'avoir fait, parce que très peu de monde, même les gens qui vont arriver en touriste, ne verront qu'une petite partie. Ils feront pas tout ce que nous on a fait, et c'est très je suis heureuse de l'avoir fait.
Mais en tout cas, tu le vends très très bien.
Maintenant, quand les visas touristes vont réouvrir, moi je conseille de venir. Parce que ils font vraiment beaucoup de choses pour le tourisme. Ils veulent vraiment que le pays ait que les gens aient une autre vue sur le pays, une autre presse. Parce que c'est vrai que ce qu'on entend, c'est négatif, ça rejoint toujours sur le politique, et puis tout est mis à côté, en fait. Alors que ça fait partie intégrante du pays. Et que les Saoudiens sont aussi sympas. Enfin, je vois à Jeddah, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours prêts à aider, ils sont toujours prêts à faire des choses. Donc, c'est vrai que le pays a une mauvaise presse, et c'est malheureux, parce que on ne peut pas s'arrêter à quelque chose, parce que je pense que tous nos gouvernements aussi ont fait des choses qui n'étaient pas très louables. Et puis voilà, puis c'est beau, et voilà, si on doit rester 2-3 ans de plus, moi je serais ravie, et j'avoue que des familles qui savent pas si elles veulent venir ou pas, n'hésitez pas, il faut pas hésiter à venir,
Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils alors pour des familles qui souhaitent s'expatrier en Arabie Saoudite?
Bah, écoute, non, moi, je conseille de venir parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Et puis, pour la vie, même avec des petits-enfants, je connais beaucoup de familles qui sont venues avec des petits-enfants. Il y a toujours la possibilité d'avoir une nanny, d'avoir, voilà, avec des prix, comment dire, très bas. Et voilà, d'avoir du personnel de maison. Et puis, voilà, après le contrat, si le contrat est bien, comment dire, négocier. Bien voilà, pensé, c'est sympa. Il ne faut pas oublier qu'on est pas loin de l'Afrique aussi. Donc, on peut aller au Kenya, on peut aller en Tanzanie, on peut aller dans tous les pays qui sont là, en Afrique du Sud, on n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin de Sri Lanka, on n'est pas loin de l'Oman. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à visiter aussi dans le coin. Et...
Non, mais déjà, vous êtes sur la mer Rouge, je veux dire.
Oui, voilà.
Rien que ça, on va s'arrêter là et on va se dire allez plonger, allez visiter tous les coraux. Aller nager avec les dauphins, il y a trop de trucs à faire.
Ah oui, non, exactement, sur tout le long de la côte, là, il y a tellement de choses à faire et tellement de... Et puis la vie est simple, et j'avoue que même pour les enfants, je vois de toutes les familles qui ont eu beaucoup d'enfants, qui vivaient dans des campagnes où il y avait beaucoup d'expats, ils disaient, les enfants, pour eux, c'est le Club Med. Hein.
Bah alors donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du coup, que Charleroi, et que vous repreniez quand même le chemin de l'école, que ce soit pour toi comme pour lui.
Voilà, chemin de l'école, une vie un peu plus normale. Et puis, voilà, qu'on puisse vraiment faire des choses un peu plus... et que je récupère mon mari, parce que mon mari, par son travail, a été quand même relativement bloqué à Riyad. Et voilà, donc je ne l'ai pas vu beaucoup l'année dernière. Hein. Je pense que je l'ai dû le voir à peu près 6 semaines, sur toute l'année.
Mais il peut quand même rentrer, non? En voiture, c'est une trotte.
Non. Ah oui, non, c'est 1000 km. Hein. Riyad de Jeddah, c'est 1000 km.
Je suis en train de regarder, c'est une trotte, oui.
Non, c'est une trotte. Et puis de toute façon, on ne peut pas. De par son travail, comme il travaille pour un secteur privé un peu plus, on va dire, un peu plus fermé.
Oui.
Parce qu'eux, ils n'ont jamais arrêté de voler. Ils ont toujours, même quand il y a eu le lockdown, que tous les pilotes étaient au sol sur Saoudia, eux n'ont jamais arrêté de voler. Donc, parce qu'ils avaient des personnes VIP à bord. Et donc, pour éviter que d'avoir le Covid ou de te rattraper, eh bien, il y a eu des consignes très strictes et tous les pilotes et les équipages sont confinés dans les hôtels.
Oh, donc, okay,
donc
je
j'ai
vois.
Fait deux périodes de 3 mois complètement séparées. On ne s'est pas vus. Ensuite, il a pu venir une semaine en août, une semaine en septembre, une semaine en juillet. Et puis, il rebelote. Et puis là, il est parti. Il a pu venir pour Noël, ça, j'avoue que... Je suis assez heureuse parce qu'il a pu passer des fêtes avec nous. Et ensuite, il est reparti début janvier et je ne pense pas le revoir avant mars. Voilà. Ou avant fin février, pour moi.
Eh bien, dis donc.
J'espère
que tu vas bien, Jean-François.
Oui, il va bien, le prof.
On va garder tous le moral parce que bon, c'est quand même, c'est pas rigolo, quoi.
C'est très, très difficile pour eux, pour tous les équipages.
Bon, j'espère que la situation va vite se rétablir et qu'il va pouvoir rentrer.
Oui, j'espère aussi. Mais surtout, simplement reprendre une vie normale. Voilà, que je puisse le voir tous les mois.
C'est clair. Ça, voilà. Sophie, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage.
Avec plaisir. J'espère que si des personnes l'entendent et veulent vivre en Arabie Saoudite, qu'elles n'hésitent surtout pas. Et puis, ils peuvent me contacter aussi, il n'y a aucun problème. Et aussi, je voudrais dire que la communauté française, on avait monté une association qui s'appelle Le Fil. Donc, c'est sur le Facebook et sur Instagram aussi. Et donc, c'était pour, informer la communauté française ou la communauté francophone, pas que française, c'était francophone. J'en fais plus partie depuis quelques années, mais voilà, on avait fait ça. Et donc, ils peuvent toujours contacter par ce biais-là.
Ok, je relayerai la page Facebook dans ces cas-là. Ça marche.
Voilà.
Écoute, merci beaucoup, Sophie.
Avec plaisir.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.